Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Il est à la tête d'un patrimoine évalué à 3,2 milliards d'euros, près de 50 sites qui cumulent une surface locative de 822 000 m2. Hein, si je vous parle de la galerie Masséna dans le 13e, 41 boutiques, le grand quartier à Rennes, c'est bien fréquenté par les ménagères, mais vous, Fabrice, c'est pas les ménagères qui vous courent après, c'est les top modèles. Mais n'empêche, elles sont bien connues, ces centres commerciaux de ces ménagères et des autres. Je parle d'un diplômé de Neoma qui a rejoint Mercialys en 2014. Il était auparavant directeur des opérations France d'Amerson, groupe d'investissement, de développement et de gestion immobilière britannique. Mais il est chez Mercialys depuis 7 ans, directeur général depuis 2 ans. Vincent Rava, merci d'être notre invité. Un petit point sur l'activité, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que le contexte sanitaire a été terrible. Est-ce que l'heure est à la normalisation en ce moment ?
C'est en cours progressivement. C'est vrai qu'on a bien repris a posteriori de la levée des restrictions sanitaires, en particulier les dernières dont on a souffert cet été avec la mise en place du pass sanitaire sur une partie de notre patrimoine. Là, la consommation est repartie. On est sur une base d'environ 90% des flux qu'on avait à la même période en 2019.
Le modèle de Mercialys est situé à la croisée de deux secteurs clés de l'économie en France, l'immobilier, le commerce. Comment évoluent les comportements d'achat de là où vous êtes, vous les observez, ces Français, et pas seulement les Français d'ailleurs.
Oui, effectivement, il y a une digitalisation notable de l'approche de la consommation, en particulier avec des consommateurs qui sont mieux renseignés sur leur acte d'achat. Il y a une recherche systématique de l'efficacité dans les démarches de consommation. On constate d'ailleurs, mais c'était quelque chose sur lequel on avait parié chez Mercialys, une réduction en fait du temps de l'acte de consommation physique, donc une efficacité accrue. Maintenant, on continue de voir une forte appétence du consommateur pour une consommation physique qu'on peut toucher, essayer.
Amazon n'a pas tout mangé.
Alors Amazon n'a pas encore tout mangé. Amazon détient une forte part de marché dans la distribution e-commerce directe. D'ailleurs, c'est un problème pour les autres opérateurs d'e-commerce. Ils ont une tendance un peu tentaculaire à phagocyter en fait tout le reste, mais la consommation digitale représente un peu plus de 10% de la consommation totale, donc il reste une grande part pour la consommation physique qui continue de progresser.
J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une très très bonne nouvelle avec cette aide du gouvernement qui est d'accord d'indemniser les boutiques dans les centres commerciaux. Vous pouvez nous en parler, quand même un petit coup de boost là qui se prépare, qui se présente.
Oui, tout à fait, c'était une promesse de Bruno Le Maire et Jean Castex qui avaient indiqué au moment des décisions de la prise de décision relative aux fermetures du premier et deuxième trimestre de l'année qu'ils indemniseraient de manière complète et totale les loyers et les charges fixes des magasins qui auraient été fermés sur la période pour les centres qui ont été touchés. Et effectivement, c'est la promesse qu'ils ont tenue. Ça a été assez long à mettre en œuvre, un passage par la Commission européenne. Et du coup, un peu trop d'administratif sûrement, mais bon, la mesure est là.
Oui,
une question, Vincent, quand on voit quand même l'amplitude de ce qui s'est passé, complètement inimaginable, ce séisme, on l'a tout subi, ce confinement, mais pour vous, ça a dû être quelque chose de quasi apocalyptique quand on apprend comme ça que l'ensemble de ces boutiques, de ces centres vont être fermés. Comment vous avez réagi ? Il y a une cellule de crise. Comment sur le moment, vous avez géré cette situation ?
Alors effectivement, la date de déclenchement, elle est facile à me remémorer puisque vous ne l'avez pas noté, mais c'était le jour de mon anniversaire, le 15 mars 2020.
Faut se méfier du prochain anniversaire.
Exactement, un dimanche. On s'y attendait lors de l'annonce des résultats de la société au mois de février. J'avais annoncé publiquement qu'on avait des craintes par rapport à l'extension de l'épidémie. Il se trouve que moi, j'avais vécu de près, étant à Hong Kong à l'époque, l'épidémie du SRAS. Et donc, je suivais l'actualité asiatique. Dès le mois de décembre ou le mois de janvier, on commençait à voir effectivement une expansion de cette épidémie, en particulier en Asie. Et on n'a pas pensé sur le moment que ça allait être comme le bouclier français relatif à Tchernobyl, que l'épidémie n'allait pas traverser les frontières. Exactement. Et donc, dès le mois de février, on s'inquiétait des possibles conséquences. Donc, on n'était pas complètement prêt pour des fermetures totales, mais disons qu'on avait ça en tête.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez une communication avec Matignon? Il y avait déjà des choses qui se montaient avec le gouvernement, avec les responsables politiques, ou pas du tout?
Bon, ça a été assez soudain. Ensuite, il y a de la coordination, en particulier au travers du CNCC, une coordination avec des réunions hebdomadaires entre le milieu du commerce et ses fédérations, et puis Bercy, mais on s'est quand même pas mal débrouillé tout seul. Oui.
Et puis, je vous confirme que Vincent Ravat a retrouvé le sourire. C'est flagrant ce matin. Vous le savez peut-être, Fabrice Mercialis a atteint cette année la troisième position du classement général de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120. Bravo Vincent Ravat, vous aimez les femmes. Vous pouvez nous en parler, c'est une volonté politique pour arriver là. Vous êtes un bon exemple maintenant.
Alors j'aime autant les femmes que les hommes, puisque ce qu'on recherche, c'est la parité. Il est important effectivement d'arriver à une forme de normalité dans l'équilibre au sein des personnels et puis au niveau des responsabilités dans l'entreprise. Je pense que le combat sera gagné quand on fera plus de distinction et il n'y aura pas une nécessité de favoriser l'accès des femmes à certains postes. Mais c'est un sujet qui nous est cher depuis longtemps chez Mercialis. On est monté sur le podium cette année, mais on a figuré sur les 5 dernières années dans les 5 meilleures entreprises du SBF 120 à ce sujet. Et je crois que nous sommes, ou nous étions, alors cette année, j'ai pas vu exactement l'actualisation, mais la seule société à parité de toutes les instances de gouvernance, donc conseil d'administration, on a des comités du conseil d'administration présidés par des femmes, et puis on a un comité managérial aussi paritaire.
Voilà, c'est possible. Et bien justement, on va donner la parole à une femme, si vous le permettez. Christelle Waters, elle est directrice générale Edmond de Rothschild REM. Vous avez embauché Christelle Waters, et puis elle vous a quitté. Mais je crois que vous lui manquez un petit peu, on l'écoute.
Christelle Waters, vous êtes la directrice générale de Edmond de Rothschild REM et vous avez eu la chance de travailler avec Vincent Ravat. Qu'est-ce que vous en gardez comme impression ?
J'ai travaillé en effet 2 ans auprès de Vincent et l'impression que j'en garde, c'est vraiment un agitateur d'idées. Voilà, c'est la première, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Vincent. Je me souviens très très bien dès les premiers jours à ses côtés, était toujours à avoir 1000 idées à la minute, donc un agitateur d'idées.
Et alors, il y a des gens qui aiment être directeurs généraux, et puis il y en a d'autres qui aiment particulièrement le secteur où ils sont. Quel lien il a avec ce domaine dans lequel il évolue aujourd'hui ?
Ah, Vincent, c'est un amoureux du commerce, un amoureux du commerce et de la France d'ailleurs. Il est capable de vous donner par cœur l'ensemble du nom des centres commerciaux de quasiment tout l'Hexagone. C'est assez impressionnant. Et de la Réunion d'ailleurs, parce qu'il y traîne souvent ses guêtres. Il aime être sur le terrain. Il adore faire les visites du patrimoine de Mercialis et de ses concurrents très très régulièrement. Il vit commerce, il dort commerce, il mange commerce. Et Vincent est vraiment un défenseur du commerce physique en France, sans par ailleurs ne pas aimer ou ne pas voir l'association vertueuse avec le commerce online.
Un mot, vous restez en contact certainement, et est-ce que vous-même qui êtes directrice générale, voilà, il y a des enseignements, vous le prenez en exemple pour certaines choses dans vos nouvelles fonctions ?
Alors dans mes nouvelles fonctions, j'ai la même tâche que lui d'embarquer les équipes, de créer des idées et d'essayer de les emmener jusqu'au bout. Donc je me rappelle en tout cas de sa hargne et de sa pugnacité. Je vais essayer d'avoir la même. Et oui, on reste en contact. D'ailleurs, je profite de l'interview pour lui rappeler qu'il m'avait promis que nous déjeunerions ensemble en décembre, si je me souviens bien.
quand on promet quelque chose à une femme, hein, elle s'en souvient. Et effectivement, on a le sentiment que voilà, elle nous dit vous vivez, vous dormez commerce. Comment ça se passe? Faut de l'agilité, de la proximité avec les enseignes. Vous pouvez nous raconter votre quotidien en ce moment?
Ça a toujours été mon quotidien, c'est-à-dire que pour bien appréhender le commerce, les évolutions de consommation dont vous parliez, l'animation que ça représente sur les territoires, c'est la dynamique territoriale, les flux, les mouvements de population, il faut être présent sur les sites. Il faut parler avec les gens qui vivent les sites, il faut parler avec les commerçants, il faut vivre le commerce. Et donc effectivement, j'ai toujours passé beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain, ça me paraît essentiel pour connaître l'activité.
Il y en a qui ont de la chance, hein, parce que parfois on doit tirer notre mari pour faire des courses. Vous vous aimez dans les magasins. Oh, j'envie votre femme. Petite question également, on parlait des indices. Non seulement vous êtes dans l'indice de féminisation, mais également dans la première place au classement ESG. Et ça, tout le monde vous envie. Hein.
Alors effectivement, on a initié assez tôt des démarches de responsabilité environnementale et en termes de gouvernance au sein de la société. Et l'entreprise fait partie des meilleurs acteurs du marché et de la place sur ces sujets-là. Et je tiens à souligner en particulier notre première place répétée sur les classements en termes de communication financière et extra-financière, le classement de la société Labrador. Voilà.
Quel développement maintenant? Votre priorité, c'est quoi? C'est bon, récupérer les loyers, bien sûr, c'est la vocation, mais les projets majeurs pour 2021 et bientôt 2022?
Bon, je pense que le sujet qui préoccupe la plupart des dirigeants de l'immobilier, que ce soit dans le secteur de l'immobilier commercial, mais dans les autres secteurs d'activité de l'immobilier, c'est la question de la réallocation de capital dans un contexte macroéconomique qui est complexe à appréhender. Il y a des sujets d'inflation latents, une abondance monétaire très très forte, un renchérissement de la plupart des produits et des évolutions structurelles complexes. Donc c'est ça aujourd'hui notre préoccupation principale.
Alors d'autres témoignages, on a fait notre enquête auprès de ceux qui travaillent avec vous. Je vous propose d'écouter le directeur général d'Immo Mousquetaires, Ali Khosrowi. Alors on comprend, vous faites concurrence, mais ça n'empêche pas de se respecter, on va l'écouter. Ali Khosrowi, vous êtes le directeur général d'Immo Mousquetaires et dans votre secteur, vous côtoyez précisément Monsieur Vincent Rava. Comment vous le voyez, vous qui êtes un peu dans les mêmes instances? Quelle est l'image qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à lui?
Vincent, je le connais en effet depuis une dizaine d'années. La première image qui me vient à l'esprit, c'est sa capacité à comprendre la complexité et de faire en sorte que cette complexité soit simplifiée pour tous les acteurs autour de la table. Outre cette grande qualité, je trouve que Vincent, c'est quelqu'un vers qui on va facilement quand on a des sujets importants ou des sujets complexes et qu'on arrive à trouver des solutions avec lui parce qu'il est souvent très à l'écoute et essaye d'apporter des solutions sans générer de conflits, même si on en est parfois concurrent.
Le groupe qu'il développe, Mercialys, évidemment, on l'a dit, c'est un concurrent. Mais voilà, vous retrouvez la patte de Vincent Rava. C'est un développeur depuis qu'il y est. C'est ce qui vous frappe?
Alors, ce qui me frappe, Vincent a pris ses fonctions dans ce groupe dans un contexte tout de même assez difficile depuis 10 ans avec l'arrivée d'e-commerce, avec la refonte des centres commerciaux et la fréquentation peut-être en baisse. Ce que Vincent et ses équipes ont su faire pour Mercialys, c'est de repositionner l'entreprise dans le contexte actuel et probablement la projeter dans les années qui viennent.
Est-ce que Vincent Rava, c'est quelqu'un avec qui il est possible de consolider des argumentaires, de défendre ensemble les intérêts de la profession quand c'est possible?
Oui, pour une raison simple. D'abord, aujourd'hui, il est vice-président du CNCC, le CNCC qui nous représente auprès des acteurs politiques notamment. Et on a des dossiers importants, type l'équité fiscale vis-à-vis d'e-commerce ou d'autres sujets, dont Vincent est particulièrement pointu sur ces sujets-là et qui fait avancer le finalement le, la pédagogie qu'on doit avoir vis-à-vis des acteurs politiques sur ces sujets-là.
Beau geste de fair play. Quand même, c'est un secteur très concurrentiel. Comment vous le sentez? Comment vous le vivez, Vincent Ravin?
Oui, tout à fait. Il y a de la complémentarité aussi. En fait, on n'est pas aussi concurrent d'Intermarché que ça. Intermarché est présent un peu partout en France, mais il y a peu de villes sur lesquelles on a une concurrence directe. Bon, et puis de toute façon, ça ne nous empêche pas effectivement de se respecter avec Ali.
Je le disais, vous n'êtes pas seulement DG de Mercialys, également administrateur de l'Institut pour la Ville et le Commerce, vice-président exécutif du Conseil National des Centres Commerciaux et de la FSIF, Fédération Représentative de l'Industrie des Opérateurs Immobiliers. C'est pourquoi on va écouter le président de la Fédération Nationale des Centres-Villes, Jean-Pierre Lehmann, il vous connaît bien. Jean-Pierre Lehmann, vous êtes le président de la Fédération Nationale des Centres-Villes. Et vous travaillez avec M. Ravin. Racontez-nous cette coopération. Elle n'a pas commencé hier, hein. Ça fait longtemps que vous le connaissez.
Oh oui, ça fait bien une dizaine d'années. On s'est rencontrés la première fois à Strasbourg. Hein, donc il était chez Amerson à l'époque. Hein. Il y a un centre commercial central à Strasbourg, en centre-ville. Et on a décidé de faire un partenariat entre lui et nous pour travailler ensemble dans l'intérêt du centre-ville commerçant de Strasbourg. C'était à l'époque ça. Et depuis, on a un partenariat annuel qui est renouvelé tous les ans avec lui et donc ça nous permet effectivement d'avoir un langage commun, déterminer des intérêts communs dans telle ville ou telle autre ville dans laquelle on est implanté aussi, si vous voulez.
Alors, vous êtes dans un secteur où il y a un ancrage local important, vous travaillez avec les élus. Monsieur Ravin, tel que vous le voyez, il a cette empathie, ce carnet d'adresses qui permet effectivement de connaître tout le monde et de travailler en harmonie avec les acteurs locaux. Et comment vous voyez ça?
Écoutez, effectivement, vous avez dit le mot carnet d'adresses. Hein, c'est-à-dire que, bon, ils sont très, très... Il a un contact permanent avec les élus et c'est hyper important pour nous parce que le maire est le chef d'orchestre un peu dans un centre-ville et souvent les maires sont pas toujours compétents en matière de commerce. Lui, il a un carré, il connaît les élus, il les rencontre, nous aussi d'ailleurs, hein, et ça nous permet ensuite d'avoir le même langage, des stratégies communes à mettre en place ville par ville en fonction, bien sûr, du pouvoir d'achat de la ville, de son implantation en France, outre-mer ou ailleurs.
Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour le futur finalement?
De continuer comme il fait, continuer à se développer pour son entreprise et pour lui et pour ses collaborateurs, hein, et de continuer à travailler nous avec eux ensemble. Hein.
En tant que vice-président exécutif du Conseil national des centres commerciaux, Vincent Ravin, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Il y a déjà eu ce dispositif loyer, effectivement, qui donne un ballon d'oxygène. Et maintenant?
On a un grand sujet, Jean-Pierre Lehmann l'a rappelé, sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet d'équité de traitement entre les différents acteurs du commerce. On a identifié une problématique pas encore complètement reconnue par le gouvernement, qui est celle du fonctionnement supranational hors sol de certains opérateurs d'e-commerce qui s'affranchissent en fait de la plupart des taxes, qui exportent la valeur ajoutée des territoires, qui ne contribuent pas ni à l'animation des territoires ni à l'emploi. Et ça pose un problème. Et pour ça, il faut arriver à distinguer en fait deux formes de logistique territoriale. Une forme de logistique saine, c'est la logistique B2B au service de l'industrie et des magasins. Donc cette logistique apporte au territoire les moyens de se développer et de développer de l'activité. Et puis une logistique B2C qui est une logistique directe, donc que j'ai qualifiée hors sol, qui elle extrait la valeur ajoutée sans créer d'animation territoriale. Et il est nécessaire en fait de reconnaître ces modalités de traitement et de trouver les moyens, à la fois fiscaux, réglementaires, d'une équité entre toutes les formes de commerce sur le territoire français.
L'État est à l'écoute?
Alors l'État est partiellement à l'écoute. L'État considère qu'il y a un enjeu fort pour la France au niveau du développement de sa logistique. Et l'État continue de faire la confusion entre ces deux formes de logistique. Donc on espère qu'à force d'explications et de pédagogie, on va arriver à faire cette distinction et à ce qu'elle soit reconnue.
On continue cet entretien avec vous, Vincent Rava, dans un instant. Tout de suite, une pause musicale. C'est votre deuxième choix. On a commencé très tranquillement tout à l'heure avec un peu de jazz. Là, c'est un peu plus swing. So Caught Up par The Teskey Brothers. C'est quelque chose que vous mettez pour vous réveiller le matin?
Exactement. J'aime bien cette musique. C'est une chanson qui parle d'amour. On en a besoin, bon, un peu moins en ce moment, mais on en a eu besoin les 18 derniers mois. Mais on a toujours besoin d'amour.
On a toujours besoin. Exactement. Allez, on l'écoute tout de suite. On se retrouve juste
le
après.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Une action qui cote 9,60€, c'est Mercialys qui connaît un beau mois d'octobre, une belle remontée. Oui, le groupe est en train de se développer fortement sous votre tutelle, Vincent Rava. Et voilà que l'État décide d'une loi climat. Et oui, c'est intéressant de s'occuper de protéger la planète. Mais quand ça implique d'interdire l'extension de centres commerciaux, le bas blesse, non ?
Oui, il y a un problème de déséquilibre dans cette loi climat avec, il nous semble, un défaut d'analyse. C'est-à-dire que la loi climat vise à réduire l'artificialisation des terres en France, ce qui nous paraît un objectif sain. Il a été oublié par le gouvernement ou omis volontairement le fait que, en fait, la principale source d'artificialisation des terres en France, c'est l'habitat pavillonnaire de périphérie provinciale et non pas le commerce. Seul le commerce a été sanctionné dans sa capacité de développement. On regrette effectivement, mais pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, que par exemple la logistique directe n'ait pas été inclue dans cette limitation. Puisque vous avez la prolifération d'entrepôts Amazon, par exemple, qui servent directement le consommateur. Donc on considère que c'est des lieux de commerce. Et quand vous avez des bâtiments construits en plein champ qui font 400 mètres de long sur 18 mètres de haut sans aucune intégration architecturale, on peut se poser des questions sur la pertinence de cette artificialisation des terres et surtout son équité par rapport au commerce physique.
Alors néanmoins, vous qui connaissez bien notre territoire, nos territoires, voilà, vous sillonnez sans doute les quatre coins de la France, on a quand même... eu cette inflation, on a le sentiment de ces au-delà du centre-ville hein, qui s'est dépeuplé d'ailleurs dans beaucoup de moyennes villes, des zones comme ça commerciales tentaculaires avec un alignement des différents centres commerciaux. Est-ce qu'il y en a pas trop aujourd'hui?
Non, mais vous avez raison. En fait, c'est un constat qui date pas d'aujourd'hui. J'étais intervenu à la Maison de la Chimie avec les sénateurs Piron et Ollier en 2010 ou 2011, il me semble, avec les députés Piron et Ollier et le sénateur Braille. Et j'avais dit à l'époque, effectivement, que je considérais qu'il y avait déjà une surdensification commerciale physique sur les territoires ou dans beaucoup de territoires et qu'il était nécessaire d'y mettre fin. D'ailleurs, Mercialis a été la première foncière en 2014 à dire que officiellement qu'on arrêtait de faire du greenfield, du développement en champ, donc on a consolidé nos actifs, transformé nos actifs, mais en arrêtant de construire de nouvelles implantations. La problématique en fait de la réglementation, c'est qu'elle ne fait que regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire que aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une surdensification avec 10 ans de retard. Et comme je viens de le dire, par contre, rien n'est regardé en termes de surdensification logistique et de ses conséquences territoriales. Et dans 10 ans, on se dira, mince, en fait, il faut aujourd'hui restreindre le développement de ces entrepôts B2C dont je viens de parler, mais il sera déjà trop tard. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, on regarde un peu de manière prospective et qu'on on fasse évoluer la réglementation de manière prospective et non pas avec des temps de retard. Aujourd'hui, limiter le développement des centres commerciaux quand il y a une autorégulation des acteurs, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est limiter la prolifération néfaste pour les territoires de cette logistique directe hors sol qui extrait la valeur ajoutée des territoires et détruit l'emploi.
Avec une opposition évidemment économie, rentrée pour la commune hein, aussi, fiscale versus environnement.
Alors où les Français et les autres vont-ils faire leurs courses hein? Il y a régulièrement, c'est comme un marronnier, oh, c'est la fin des hypermarchés, et puis on a vanté les bienfaits du commerce de proximité qui a ses vertus aussi. Vous vivez ce commerce au quotidien, est-ce que c'est vrai? Est-ce que franchement, on va tous et on a tous envie de commander uniquement face à son ordinateur de son salon? Comment ça se passe?
Oui, il y a un parisianisme d'approche et d'analyse sur ces modalités de consommation avec un défaut effectivement de prise de conscience de ce qui se passe réellement sur les territoires. 85% des gens en France prennent leur voiture tous les jours. 15% d'entre eux la prennent pour faire 500 mètres en moyenne. Et ce sont des gens qui, dans leur grande majorité, habitent dans un habitat pavillonnaire dispersé en province. Il faut savoir qu'en fait, la plus grande source de croissance en France en matière d'habitat sont les villages satellitaires des villes moyennes en France et pas les grandes agglomérations, comme on le dit à tort. Ces gens-là habitent déjà en périphérie provinciale et effectivement, quand ils rencontrent des centres commerciaux de périphérie provinciale et qui sont sur leur passage, c'est là où ils vont consommer. Donc effectivement, il faut remettre l'analyse au bon endroit, regarder ce qui se passe sur les territoires et arrêter de penser que la dynamique des quartiers centre de Paris est la dynamique qui s'applique à l'intégralité du territoire français.
Vous nous en parlez de ces régions, hein, vous sillonnez, vous allez voir les centres commerciaux, les sites partout en France. Qu'est-ce que vous percevez là? C'est pas la France, il y a des Frances. Hein, quels sont les retours de terrain de à la fois des pratiques de consommation et les remontées des gens et des salariés? Qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment?
Il y a 30 ans, on parlait de Paris et du désert français. Alors effectivement, désert français, c'était un petit peu peut-être extrême. Mais effectivement, il y a Paris et quelques grandes villes. Et ensuite, avec des comportements très urbains, donc on peut comparer à ceux des grandes agglomérations, grandes métropoles internationales. Et puis ensuite, il y a le reste de la France, des villes moyennes, avec un habitat beaucoup plus diffus. Cette analyse des mobilités des Français, de la capacité à la mobilité des Français, elle est essentielle pour comprendre en fait leur modalité de consommation. Et quand on habite dans un pavillon à 10 km du centre-ville, on ne consomme pas de la même manière que quand on habite dans un immeuble de la rue de Réaumur.
Bien sûr.
Est-ce que les gilets jaunes vont-ils revenir en cette fin d'année? C'est-à-dire il y a des problèmes, des tensions perceptibles avant le Covid qui sont en train de refaire leur apparition. Il y avait eu de la casse dans des boutiques, dans des centres commerciaux. Est-ce que vous commencez à vous inquiéter, à vous barricader? Comment ça se passe?
J'ai lu un édito de Jacques Attali dans Les Échos, je crois, il y a un ou deux jours, qui s'inquiétait des tensions inflationnistes mondiales, et en particulier sur la dépense contrainte. On peut considérer effectivement qu'il y a un réel danger. De manière à adresser la crise, les banques centrales du monde entier ont ouvert le robinet à dollars. Ça a créé en fait des inégalités encore plus marquées qu'elles ne l'étaient auparavant et de la tension en fait sur la valeur des choses et en particulier des matières premières qui se répercutent directement sur le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas bénéficié de cette manne. Ça ne peut être que source de tension sociale. Donc oui, danger. Danger. Et on voit aussi, et c'est quelque chose dont on s'inquiète nous, que cette manne d'argent a aussi beaucoup financé ou porté à bout de bras des entreprises zombies qui ne génèrent aucune valeur ajoutée ni pour la société ni pour leurs actionnaires et qui sont seulement portées par le flux d'investissement dans une logique de schéma de Ponzi qui, quand il éclatera, peut effectivement créer des dégâts monstrueux. Donc,
vous pensez à qui, là?
J'imagine qu'il y a peu d'émissions que vous faites sans parler de start-up. Aujourd'hui, on qualifie toute start-up. Et derrière start-up, on dit c'est une entreprise dans laquelle on peut investir sans avoir de réelles perspectives économiques et dans lequel il va y avoir une continuité d'abondance d'argent et de recherche de valeur qui va permettre de réaliser du profit. Le problème, c'est les sous-jacents et le modèle économique général. Il y a une absence de transparence, en fait, sur ces sociétés qui est complète. J'ai parlé de la transparence, de l'extrême transparence de Mercialis dont on peut tout connaître, puisque tout est public. On a un document de référence qui fait 500 pages qui est consultable par qui que ce soit. La plupart des grosses start-up, des licornes dont on parle dans la presse tous les jours, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le moteur. Nous, on considère que ce sont des chaînes de Ponzi. Donc, l'innovation, c'est bien, son financement, c'est bien.
Dans votre secteur en particulier ou...
Non, tout secteur d'activité confondu.
Parce que la start-up, comme elle n'a pas de chiffre d'affaires, elle n'a pas eu de PGE, normalement. Et la start-up, c'est de l'argent des investisseurs. Alors, il y a un peu de BPI de temps en temps, qui sera perdu. Mais là, les gens savent en connaissance de cause dans quoi ils investissent. Soit on a le nouveau Google, soit on perd son argent. Vous pensez à quel secteur ou quelle société en particulier ?
Non, mais les investisseurs savent ou ne savent pas, en fait. Y a beaucoup de mouvements d'entraînement avec des réflexes panurgiques de recherche de la croissance.
Prenons un exemple très concret sur ce qui se passe en ce moment. Alors désolé, on va revenir, on quitte les territoires, on revient dans Paris intramuros, où on voit de plus en plus ces livreurs, ces nouveaux adeptes du quick commerce. Le quick commerce, c'est quoi? C'est une appli sur laquelle vous pouvez commander, en 10 minutes, on vous livre absolument ce que vous avez besoin dans votre frigo. là, on a effectivement pas mal de startups qui se lancent tout en même temps, des Françaises, des étrangères, qui lèvent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros avec un système logistique à base de dark store, des petits entrepôts au milieu du centre-ville. Justement, est-ce que c'est à ce à quoi vous pensez, Vincent Ravat, ou qu'est-ce que vous pensez justement de ce phénomène?
Ben, c'est un bon exemple. C'était pas ce à quoi je pensais de manière spécifique, mais c'en est un. C'est-à-dire que il n'y a dans ces entreprises de livraison à domicile, et en particulier dans celles du quick commerce, aucune perspective de rentabilité.
Pas possible.
À ce stade, pas du tout. On voit que la plus grosse d'entre elles, Uber, malgré ses milliards de chiffres d'affaires, n'a toujours pas atteint quelconque seuil de rentabilité et en est assez loin. Donc pour celles qui font des millions de chiffres d'affaires, on peut estimer que l'horizon est encore plus loin. La plupart d'entre elles dégagent des EBITDA négatifs.
Donc on traduit, ça veut dire qu'elles perdent de l'argent.
Elles perdent de l'argent
sur chaque commande.
Exactement, sur chaque commande.
Alors c'est vrai qu'on explique le principe. Quand on voit le prix des produits qui n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'en supermarché, auquel on ajoute les frais de livraison, quand même le packing, c'est-à-dire l'emballage, etc., on se demande où est la création de valeur. Ça devrait coûter beaucoup plus cher.
Le panier moyen en France de la consommation physique, c'est 25 euros. La livraison, le coût de la livraison en France, je parle que sur le territoire national, c'est à peu près 7 euros en moyenne pour les acteurs, 5 pour Amazon sur des villes comme Paris, donc avec beaucoup de densité, et de 9 à 12 euros sur le reste du territoire où il y a plus de distance à parcourir avec un habitat dispersé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un coût de la logistique qui représente jusqu'à 50% du panier moyen. C'est impossible d'être rentable dans ces conditions-là. Il y a zéro perspective. Et pourtant, l'argent coule à flot. Et ça coule à flot dans des logiques de Ponzi, mais comme l'argent coulait à flot chez Bernard Madoff, jusqu'à ce que tout le monde s'aperçoive que...
Vous nous annoncez une catastrophe bientôt?
Je ne sais pas s'il y a une catastrophe, puisqu'en fait, tant que les banques centrales continuent d'abreuver cette machine à dollars, sans contrepartie de remboursement, effectivement, de la dette qu'elles accumulent sur leur bilan, la mécanique pourra se poursuivre. Le jour où, effectivement, il y a un assèchement monétaire mondial... un renchérissement du coût de l'argent, on peut se poser des questions sur l'état de ces sociétés.
Alors on fait le lien justement parce qu'on a vu notamment au SIEC qui s'est déroulé à Paris, le salon de l'immobilier commercial, il y a une semaine environ, que le secteur est quand même extrêmement dynamique et que là aussi il y a beaucoup d'innovations. Chez Mercialys, elle se traduit comment, vous qui avez été qualifié par votre ex-collègue comme la boîte à idées?
Voilà, écoutez, nous déjà on a regardé pour apporter une dimension multifonctionnelle à nos sites qui étaient principalement ancrés sur le commerce, puisque effectivement on a identifié des besoins sur les territoires avec une idée qui est ce qu'on appelle le commerce unifié, c'est-à-dire d'apporter sur un point du territoire spécifique et en particulier dans les villes moyennes en France, un rassemblement d'activités servicielles au bénéfice du consommateur. Donc c'est comme ça qu'on a fait rentrer des pôles santé, par exemple, sur nos sites. On a aussi transformé les espaces dont on disposait en termes de bureaux aux étages et qui étaient non productifs de loyer en espaces de coworking à des prix relativement attractifs, effectivement, pour les travailleurs indépendants des territoires. Et on s'est aussi mis à répondre à des besoins serviciels des consommateurs. Donc on a parlé tout à l'heure, vous avez insisté pour le consommateur de se renseigner sur les produits au niveau du digital. Donc on a créé des marketplaces qui permettent aux consommateurs de se renseigner éventuellement, de commander ces produits. Et puis, on a estimé qu'il y avait un besoin au moins partiel sur certains territoires de click and collect, voire de livraison à domicile, on s'est mis à proposer ces services-là. Et c'est pour ça qu'on en voit de manière assez directe l'absence de modèle économique. Il n'empêche que nous, dans notre économie globale sur le site et portée effectivement par notre puissance d'immobilier physique, on est en capacité de fournir ce service. Mais on aurait juste cette activité-là, jamais on pourrait survivre.
Vous parliez d'éventuelles catastrophes, puisque les systèmes de Ponzi, effectivement, ça finit toujours mal. Vous regardez de loin ce qui se passe sur Evergrande, vous connaissez bien l'Asie. Il peut y avoir une onde de choc après la dégringolade de ces promoteurs immobiliers en Chine, d'après vous?
De la même manière, vraisemblablement, l'État chinois va servir d'amortisseur. Et tant que les États, effectivement, sont là pour compenser les dettes où les pertes accumulées par des acteurs du secteur privé, il n'y aura pas de catastrophe mondiale. Maintenant, effectivement, le problème d'Evergrande, c'est la même chose. C'est-à-dire un emballement des consommateurs en Chine sur la plus-value immobilière, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'ils voient que les prix montent. Et donc, chacun veut s'endetter pour acheter et profiter de cette embellie. Un peu comme ça s'est passé en Espagne en 2008. Et vous savez comment ça s'est terminé. Moi, je me rappelle, puisque j'y opérais à l'époque dans le secteur de la consommation, du commerce. Et les banques me disaient à l'époque que l'Espagne, c'est les États-Unis d'Amérique. Au niveau de l'immobilier résidentiel, les arbres monteront jusqu'au ciel. La plupart de ces banques-là n'existent plus aujourd'hui.
Il y a eu un gros phénomène de concentration dans votre secteur il y a quelques années, avec un très très gros acteur qui était Unibail-Rodamco, ensuite Unibail-Rodamco-Westfield, qui a évidemment pâti bien plus que vous encore de la crise et qui a du mal à sortir même des bons résultats, on l'a vu encore à ce dernier trimestre. Il y a une course à la taille qui va reprendre selon vous, où il faut atteindre, est-ce qu'il y a une taille critique à atteindre? Est-ce que c'est un objectif aussi pour vous de continuer à se développer, voire par acquisition?
Alors, je distingue deux choses en termes de course à la taille. Précédemment, en fait, il y avait une course à la taille sur la taille des actifs immobiliers eux-mêmes, dans une logique qui était celle du « big is beautiful », c'est-à-dire le plus gros actif immobilier j'ai, le plus résistant il sera, et d'ailleurs, ça se reflétait dans des taux de capitalisation qui étaient inversement proportionnels au risque estimé. Nous, on considère que c'était une erreur d'analyse, puisque la résilience d'un actif d'immobilier commercial ne nous paraît pas dépendre de sa taille, mais plutôt de l'intensité concurrentielle qu'il y a autour. Et on en a parlé, vous l'avez soulevé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez avoir un petit site sur un territoire à faible concurrence qui résiste mieux qu'un gros site soumis à une concurrence intense. Effectivement, pour certains acteurs du marché, cette course à la taille à concentrer leur portefeuille et leur patrimoine sur des actifs avec des valeurs immobilières installées dans leurs comptes très très élevées qui ne rencontrent plus de liquidité de marché puisqu'il y a une appréciation du risque qui est trop forte. Donc nous, on est resté en fait sur ce qu'on appelle des tailles raisonnées en fait de centres commerciaux et adaptées à l'intensité concurrentielle. Donc on a des actifs qui, pour le coup, sont plus liquides. Ça nous a permis de bien traverser la crise en matière bilancielle. Par contre, effectivement, au niveau de la société, étant une société cotée, là, il y a un sujet de taille, puisque il y a des coûts inhérents en fait à la cotation en bourse qui font que quand vous êtes un trop petit acteur,
ça pèse.
Voilà, ça peut peser en fait sur vos équilibres économiques. Et donc, pour Mercialis, il y a un besoin vraisemblable de continuer à croître de manière à être à un niveau de taille qui permet à la fois de la liquidité boursière, d'identification et de l'allocation par les investisseurs et puis d'absorber ces coûts de cotation.
Oui, et puis c'est ce que vous demandent aussi vos actionnaires, hein, de croître, d'afficher un retour évidemment à la profitabilité d'avant et puis innover sans cesse, on l'a vu aussi.
On n'a jamais perdu la profitabilité d'avant puisqu'on tourne toujours avec des ratios d'EBITDA très confortables.
Ça a juste été coupé à un moment. Quoi,
voilà, en fait, les tensions étaient plutôt bilanciel. Mais effectivement, on a dû soutenir aussi nos commerçants. Donc, il y a eu un peu une baisse de revenus, mais les performances restent élevées. Ouais.
Quels sont les objectifs, là, effectivement? Un nombre de sites, c'est ce que vous avez en tête dans les 3 années à venir? Une surface locative qui atteigne le million?
Non, on estime que, en fait, par rapport à la structure, au coût de fonctionnement, à l'expertise nécessaire en interne et les compétences de manière à offrir une proposition servicielle en matière immobilière large et couvrant l'intégralité de la chaîne, qu'au-dessus de 200 millions d'euros de revenus annuels, ce serait plus confortable qu'au niveau où on est actuellement, autour de 160-170. Donc oui, on va chercher à accroître nos revenus locatifs d'une trentaine de millions dans les mois qui viennent.
Et on peut s'attendre à une distribution de dividendes bientôt?
Alors effectivement, ça c'est sous réserve de ce que décidera le conseil d'administration. On a distribué l'année dernière, puisqu'on n'avait pas suspendu le dividende, on l'a modéré dans une période où effectivement il y avait des risques sur les bilans des sociétés, risques de liquidité. Normalement, si, comme vous l'avez dit en début d'émission, une normalisation de la situation, en particulier du recouvrement, on devrait revenir à des standards plus conformes à ce qu'on a connu en termes de distribution.
Petite question sur la France. On a dit avec le Covid, un effet quand même positif, c'est que de plus en plus de Français se sont mis au digital. Est-ce que vous pensez que même si ça augmente, il y a une grande partie des gens qui aiment toucher les produits? On gagne un intérêt à avoir des Français qui sont dans les allées des boutiques, parce qu'on va souvent acheter, on revient avec quelque chose qu'on n'a absolument pas l'intention d'acheter. Donc c'est quand même bien d'avoir les gens dans les magasins.
Oui, en fait, nous on n'est pas si inquiet que ça. On n'a pas constaté, en tout cas sur les territoires sur lesquels on est présent, une désaffection des Français pour la consommation physique, pour pas mal de raisons. C'était que, un, on est ancré dans la consommation du quotidien, et pour la plupart des produits du quotidien, les gens aiment bien toucher, en particulier les produits frais, les produits alimentaires. Deuxièmement, ils consomment aussi une partie de service, et celle-là, elle n'est pas exportable. Hein. Quand vous allez chez le coiffeur, bon, on peut venir éventuellement chez vous, mais ça se fait encore peu. Pareil pour les activités de service. Ensuite, il y a cette volonté de pas mal de consommateurs de pouvoir voir, toucher, essayer. Et puis après, il y a ce dont je parlais, c'est-à-dire l'efficacité, l'acte d'achat. En moyenne, nos consommateurs, ils restent à peu près 30 minutes sur nos sites, et ils vivent à 10 minutes de nos sites, en moyenne. C'est-à-dire 40 minutes tout compris, avec une gratification instantanée à la fin de ces 40 minutes, avec des choses qu'ils ont pu toucher, essayer, etc. C'est nettement mieux que n'importe quelle démarche sur Internet. Essayer d'initier une démarche d'achat sur Internet, déjà le temps de trouver les produits en ligne, de les sélectionner, etc., vous allez être bien au-delà de la demi-heure ou pas loin, sauf éventuellement dans un achat récurrent, et ensuite vous allez devoir attendre cette livraison. Et quand vous habitez près des sites avec une mobilité en voiture qui est quotidienne, effectivement, la plupart du temps, vous préférez aller chercher pour en disposer immédiatement.
C'est ce qui fait d'ailleurs une innovation, en tout cas, qui cartonne, c'est le fameux drive, parce que ça rencontre exactement ce dont vous parliez, la voiture et le magasin à proximité. On fait ses courses, on va le chercher, tout est dans la voiture extrêmement rapidement. Ça continue, ça, cet essor du drive, vous le voyez progresser toujours ?
Il s'est développé pendant la crise, et effectivement, ça fait partie de cette efficacité, instantanéité recherchée par les consommateurs. Les chaînes d'hypermarchés l'avaient bien compris, avaient anticipé ça. Et c'est un créneau qui marche. Et donc, on est bien dans une logique de déplacement physique qui est liée à la mobilité des Français, de la grande majorité des Français, 85% d'entre eux, quotidienne en voiture.
À telle enseigne, c'est qu'elle veut dire qu'on a désormais des drives piétons dans les centres-villes. Voilà, si vous avez fait ça, le drive
piéton. Moi, je drive en trottinette. Alors, j'attends les drives pour trottinette.
C'est moins pratique pour les meubles IKEA.
Petite question sur cette crise, elle n'est pas totalement finie. Lorsque les magasins étaient fermés, commerce essentiel, pas essentiel, les boutiques, c'est là parfois où on se retrouvait pour celles qui étaient ouvertes. C'est devenu, on a reconnu la dimension sociale de ces liens. Moi, j'avais ma fille qui me dit je vais voir ma copine, on peut pas aller au cinéma, alors on se retrouve dans la boutique d'à côté, dans le magasin local. Et est-ce que vous avez le sentiment que au-delà de faut aller faire les courses, les Français ont redécouvert cet espace comme un espace social où il peut se passer des choses?
Alors, effectivement, il y avait cette espèce de croyance, en particulier au début de la crise sanitaire, du premier confinement, qu'on allait basculer vers un monde complètement digitalisé où on allait tous arrêter d'avoir des interactions les uns avec les autres. Un peu l'univers du film Le Soleil Vert.
C'est ça.
Les Français restent latins. L'être humain est un animal
social,
par définition sociale. Et puis après, nous, on pense qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on se lasse de tout. Vous avez peut-être l'occasion de passer devant l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel tous les jours, et à force, vous ne les remarquez même plus. Eh bien, quand on passe ses journées ou pendant 3 ou 4 mois d'affilée accroché à son téléphone ou à son écran d'ordinateur, le premier truc qu'on a envie, c'est d'une bonne bière avec les copains ou d'un magasin dans lequel on peut toucher des produits.
D'ailleurs, on pouvait y aller, mais il y avait cette jauge qui était un petit peu pénalisante. Mais bon, c'est vrai que ce côté social, c'était très vrai. J'ai une question parce qu'on, alors, un, on s'approche presque du terme de l'émission, et deux, surtout d'une période très importante pour vous. C'est les fêtes, c'est la fête aussi du commerce, c'est fête de Noël qui arrive. Alors, on essaye en plus d'importer maintenant d'autres fêtes, d'autres événements avant pour dynamiser. Quel est l'enjeu pour vous? On voit vos centres qui ont été massivement rénovés, embellis depuis quelques années. Ça devient, comme disait Fabienne, vraiment des lieux de vie. Et au-delà, on a l'impression même qu'il y a une nouvelle catégorie d'enseignes qui arrive, plus jeune, plus dynamique, où les gens ont envie d'aller avec vraiment une marque qui attire aussi.
Ouais, alors, il y a pas mal d'enseignes historiques qui sont réinventées, renouvelées et qui continuent de faire d'extrêmement belles performances. On constate quand même une polarisation dans les secteurs d'activité avec certains leaders qui émergent et qui se confortent. Si je vous dis Laurent Merlin, Decathlon, Kiabi, etc., c'est des noms qui vont être familiers et qui existent depuis pas mal de temps. Il y a aussi, en marge de ça, mais il y a toujours eu en fait un renouvellement des opérateurs avec de la créativité et de la création de nouveaux concepts. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'en suis administrateur, mais qu'on travaille beaucoup avec Initiative France, qui est le premier incubateur de créateurs d'entreprises dans le commerce et qui permet de faire émerger sur les territoires des nouveaux opérateurs.
Oui, c'est vrai, ces nouveaux opérateurs, ces nouvelles enseignes. Fabienne.
Et pendant cette crise, encore un petit mot, c'est là où on a vu les bons directeurs généraux, hein, les managers, les équipes. Il fallait que l'esprit d'équipe soit toujours au rendez-vous pour traverser cette crise. Là, ça a été un défi pour vous?
Oui, ça a été un défi. On est assez fiers de la manière avec laquelle on a traversé la crise. Je ne crois pas que les équipes aient douté à un moment de la capacité de Mercialis à sortir de cette crise fort, voire renforcé. D'ailleurs, c'est le cas bilanciellement. Il n'y a pas eu d'angoisse particulière chez nos collaborateurs. Ils ont fait preuve de patience, d'abnégation, d'écoute, d'empathie. Ils ont multiplié les échanges avec nos clients de manière individuelle, ce qui était un effort colossal.
Vous avez lancé des initiatives, justement?
Oui, enfin, c'est des choses qu'on avait demandées, mais qui sont faites de manière assez naturelle. On voulait rester sur une période où, en fait, on était tous séparés les uns des autres, à l'écoute et proche de nos clients, en particulier de nos clients enseignes. Je pense qu'on a pas mal réussi, donc voilà. Et c'est, paradoxalement, c'est maintenant où il n'y a plus de restrictions que les liens peuvent se distendre, donc il faut continuer d'alimenter cette dynamique de proximité client.
Donc vous attendez à une année quand même plus normale. Je ne sais pas si ce mot-là veut dire quelque chose dans le commerce.
Écoutez, pour l'instant, je suis mesuré. Hein. J'ai toujours été relativement prudent dans l'approche. On va voir comment se passent les fêtes je pourrais éventuellement revenir vous en parler début janvier. Là, on verra si les choses sont rentrées dans une certaine forme de normalisation.
Alors moi, je voudrais vous remercier d'avoir été l'invité du magazine de l'IMO, Vincent Rava. Je rappelle, vous êtes DG de Mercialis. Donc je dis merci Alice et puis je dis merci à Pierre-Yves Falzon parce que vous êtes un entrepreneur, mais notre technicien qui pilote cette émission à la régie, je dis merci parce que il commence son aventure d'entrepreneur. On lui souhaite bonne chance.
Merci Fabienne, merci Vincent Rava, effectivement, de nous avoir accompagnés pendant cette heure. On termine avec un morceau. Vous nous avez dit c'est éclectique. Et là, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre dernier morceau? Plutôt du classique.
Voilà, j'ai choisi une recomposition de Vivaldi par Max Richter. Alors, ça ne plaira pas forcément aux puristes, mais j'aime bien la densité du son et je trouve que c'est une version qui est très très plaisante d'un grand classique de Vivaldi.
C'est révélateur, hein, c'est l'automne, mais pour lui c'est déjà le printemps. On va écouter Spring.
Exactement, merci à tous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Mac de Limo.
Merci.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.